leur destin à la journaliste Sophie Nahum, des récits tout à fait saisissants. Nous rendrons hommage à l'ami d'Israël, Colin Powell, ancien secrétaire d'État et chef de cabinet des États-Unis, qui est décédé à l'âge de 84 ans. Nous rendrons également hommage à Madame Merkel, qui, elle, n'est bien sûr pas décédée, fort heureusement, mais qui quitte le pouvoir après 16 ans de bons et loyaux services, avec un texte hommage à Madame la chancelière. Sachez que les entreprises israéliennes s'intéressent de plus en plus au marché russe. Décès de Bernard Nathan, sans doute le juif le plus haï après Stavisky. D'après un rapport, de plus en plus de juifs quittent l'Europe pour se sentir en sécurité. L'Australie adopte la définition de l'antisémitisme de l'IHRA, l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Israéliens et Soudanais normalisent leur relation. Voilà. Mais avant de développer tous ces titres, bien sûr, nous vous proposons un morceau de musique.
שוב בדרך לאיזה כפר, מי משנינו יתחיל דיבור, אני זורק לך משפט מוכר, קחי סיגריה תתני גפור, אני מרגיש את הנשימה שלך, ולוקח את הלריאות, ואומר לך הים ירעד והלב ישרוד. שוב בדרך לאן שהוא את שואלת יהיה זמר אני אומר לך הכל תלוי את קוראת לי עוד מיתר את לוחשת מצחי שלי ופותחת חלון לעיר ואומרת תקשיב צלילי מחפשים שם שיר את היית בחורה שלי את היית הימים מהם את היית החצי שני ועכשיו אחיה שלם החיים הם חידה גדולה אני זוכר איך אמרת לי לא הורגים את הבחורה שעוד מיזה שוב בדרך על הכבישים מאשלים, מאשלים תמיד
את מספרת
את מספרת על אנשים
את מנבט
לי את העתיד עוד יגיעו לירחים עוד יזיעו עד אלוהים עוד יריעו לאחרות ולאחרים את היית בחורה שלי את היית הימים ההם את היית החצי שלי ועכשיו אחיה שלם החיים הבחידה גדולה אני זוכר איך אמרת לי אז לא הורגים את הבחורה שעוד מיזה את הבאת לי המזלות כשאמרו פמיניסטיתי איך צחקתי מזה מאוד כשלקחת מיקרופון ביד וכששעת שם בעצמתך נעמדתי שם בצד נתפעל ממך נעמדתי שם בצד נתפעל נעמדתי שם בצד, מתפעל ממך זה כבר מי משנינו יתחיל דיבור.
Baruch Sheli, c'était bien sûr Shlomo Artzi. Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État et chef de cabinet des États-Unis, est donc décédé à l'âge de 84 ans des suites d'une complication de la maladie du corona. Un communiqué de la famille Powell a indiqué qu'il avait bien été vacciné deux fois. Le général Colin Powell, l'ancien secrétaire d'État américain et chef d'état-major de l'armée américaine, est décédé des complications du virus Corona, écrit la famille Powell sur Facebook. Nous avons perdu un mari, un père, un grand-père et un grand Américain extraordinaire et aimant. Fin de citation. Monsieur Powell a été secrétaire d'État pendant le premier mandat du président George W. Bush de 2001 à 2005 et il est devenu le premier afro-américain d'origine jamaïcaine à occuper le poste de ministre des Affaires étrangères. De 1989 à 1993, il a été président des chefs d'état-major interarmés pendant la guerre du Golfe. Colin Powell est considéré comme un pro-israélien dans ses positions et a un lien tout à fait surprenant avec l'héritage juif. En effet, adolescent, le jeune Powell travaillait dans un magasin de produits pour bébés dans le quartier du Bronx à New York, dans un magasin appartenant à des Juifs. Colin Powell a donc appris du reste des employés du magasin à parler yiddish, il parlait très bien yiddish, et a réussi à surprendre les hommes d'État israéliens lorsqu'il a prononcé des mots en yiddish. L'ancien président George Bush l'a félicité, il était un grand fonctionnaire à partir de son temps comme soldat pendant la guerre du Vietnam, il a été favorisé par un certain nombre de présidents à tel point qu'il a reçu la médaille de la liberté présidentielle et cela à deux reprises. Alors, autre hommage à Madame Merkel qui, elle, n'est fort heureusement pas décédée, mais elle quitte le pouvoir après 16 ans de bons et loyaux services. Alors, voici un beau texte hommage à Madame la Chancelière. Elle était fille de pasteur et a passé son enfance en Allemagne de l'Est. Elle a obtenu un doctorat en physique, un parcours politique atypique. Quelle carrière fondée sur le travail, la modestie et l'intégrité. Les Allemands l'ont élue et elle a dirigé 80 millions d'Allemands pendant 18 ans avec compétence, habileté, sincérité et un grand dévouement. Durant ces 18 ans à la tête de l'autorité de son pays, aucune transgression n'a été enregistrée à son encontre. Elle n'a assigné absolument à aucun de ses proches un secrétaire ni cortège et encore moins de passe-droit pour le salon d'honneur. Elle n'a pas siphonné des millions d'euros ni ne s'est enrichie. Elle n'a pas combattu ceux qui l'ont précédée. Elle n'est pas apparue dans les ruelles de Berlin pour être photographiée ou sur des estrades à se faire aduler et porter en déesse vivante. Madame Merkel a quitté la direction de son parti et l'a remise à ses successeurs. L'Allemagne et son peuple sont dans la meilleure des conditions. La réaction des Allemands a d'ailleurs été sans précédent dans l'histoire de ce pays. Tout le peuple est en effet sorti sur les balcons des maisons et l'a applaudi spontanément durant 6 minutes sans discontinuer sous des applaudissements nourris et chaleureux. L'Allemagne a fait corps unique en adressant ses adieux au leader de l'Allemagne, une physicienne et chimiste qui n'a pas été tentée par la mode ou les lumières et qui n'a pas acheté de biens immobiliers, de voitures, de yachts et d'avions privés, gardant à l'esprit qu'elle est originaire de l'ancienne Allemagne de l'Est et d'origine très modeste. Elle a donc quitté son poste après avoir laissé l'Allemagne au sommet. Et toutes ces années n'ont pas changé son style vestimentaire. Lors d'une conférence de presse, une journaliste a demandé à Angela Merkel « Nous remarquons que votre garde-robe est répétée, n'en avez-vous pas une autre ?» Elle a répondu « Je suis une employée du gouvernement et pas un top modèle. » Évelant. Lors d'une autre conférence de presse, on lui a posé la question « Avez-vous des femmes de ménage qui nettoient la maison ou qui préparent les repas ?» Sa réponse a été la suivante « Non, je n'ai pas de femme de ménage et je n'en ai pas besoin. Mon mari et moi faisons ce travail à la maison tous les jours. » Puis un autre journaliste a posé la question « Et qui lave les vêtements, vous ou votre mari ?» Réponse « Je range les vêtements et mon mari est celui qui fait fonctionner la machine à laver. Et c'est généralement la nuit parce que l'électricité est moins chère et le plus important est de tenir compte des voisins et de la jeune, du bruit et le mur qui sépare notre appartement de celui des voisins est très épais. » Ensuite, elle a dit, toute déçue, je m'attendais à ce que vous me posiez des questions sur les succès et les échecs de notre travail au sein du gouvernement. Madame Angela Merkel vit dans un appartement normal, comme n'importe quel autre citoyen. Cet appartement qu'elle habitait avant d'être élue chancelière de l'Allemagne, elle ne l'a pas quitté et ne possède pas de villa, de domestique, de piscine et de jardin. Il en est ainsi d'Angela Merkel, la chancelière de l'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, et quant aux pensées, au train de vie de tous nos hommes et femmes politiques.
אני הולך אלייך כל ימי אני הולך אלייך מסונבר אבנים פוצעות את כפותיי אבל אני איני מרגיש דבר
אני חוזר לארץ לא זרועה מושיט ידי לנטוף את שערי הנני כאן, אך כמו יונה פצועה אני נופל תמיד מול שערי
הנני כאן, כמו ציפורים חגות הנני כאן, מביטין הגגות הנני כאן, כמו אבן בגדר כמו סלע, כמו באר אשר תמיד חוזר, חוזר
אני חוזר באלף גלגול אני חזיר מלך וגבצן ובלילות בבקות השואלים אני חולם והרבח בו בזמן
במדבר צריכות רכות נשקו אותך פנים שקיעות כבדות נשקו אותך צוואר
כך ראיתיך יושבת ומצפה ובעינייך אור וצבח כך לקחתיך היא תהיה לך חופה את היחפה כתר של זהב הנה ניתן עוד ציפורים חגות הנה ניתן תמיד מן הגלות הנה ניתן אוהל ואחר הגדר עושה לנו מורה אני האיש אשר
Inenikan Yoram Gaon, Le Premier ministre australien Scott Morrison a annoncé mercredi soir que l'Australie adoptait la définition de l'antisémitisme promulguée en 2016 par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, l'IHRA. Cette annonce intervient un mois après une déclaration du ministre australien de l'Éducation, Alan Tutch, qui indiquait que la définition de l'IHRA était examinée par le gouvernement. M. Morrison a présenté sa décision lors de sa participation au premier forum international contre l'antisémitisme à Malmö en Suède. Dans l'histoire de l'humanité, la Shoah constitue le rappel perpétuel et brutal de l'exclusion, du racisme, de la haine politique systématique et du mal lui-même, a déclaré M. Morrison en vidéoconférence. Mon gouvernement s'engage donc à adopter la définition de l'antisémitisme comme énoncée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Lors de cette allocution, Scott Morrison a souligné que l'antisémitisme n'avait pas sa place en Australie. Il n'a d'ailleurs sa place nulle part dans le monde. Et nous devons travailler ensemble, résolument et en tant que communauté mondiale, pour rejeter toute parole ou tout acte qui soutient l'antisémitisme envers les individus, envers les communautés ou les établissements religieux, a-t-il ajouté. L'Australie a été béni pendant des générations par la présence des enfants d'Israël, a-t-il estimé. Parmi eux, il y en a beaucoup dont l'enfance et la jeunesse ont été détruites, volées par les ténèbres et le mal de la Shoah. Mais leurs yeux sont restés brillants de défis, avec de l'espoir pour l'avenir, a-t-il dit. Notre nation doit une grande dette au miracle de leurs âmes douces et de leur sagesse. Leur exemple est une lumière qui brillera à travers les âges, a-t-il conclu. Le Portugal a donc décerné en juin 1940 donc le juste Aristide de Sousa Mendes est entré au Panthéon national du Portugal, pardon. En juin 1940, pour rappel, il a sauvé des milliers de réfugiés juifs et 81 ans plus tard, Aristide de Sousa Mendes entre au Panthéon portugais. La cérémonie a eu lieu avant-hier à Lisbonne, au Panthéon national, où une plaque portant son nom a été dévoilée devant les descendants des familles sauvées. Le Portugal restaure ainsi ce consul à Bordeaux, tombé dans l'oubli, et honore son courage de désobéir. Pour rappel, il y a 81 ans, il a organisé ce qui est sans doute la plus vaste opération d'exfiltration de personnes menacées d'arrestation par les nazis depuis Bordeaux en France. C'était en juin 1940, en pleine débâcle face à l'armée allemande. Aristide de Sousa Mendes avait alors 55 ans et il était consul du Portugal à Bordeaux. Et du 17 au 24 juin, il a délivré environ 30 000 visas, dont 10 000 pour des citoyens de confession juive, pour leur permettre de quitter la France et rejoindre légalement Lisbonne, dernier port d'Europe assurant encore la liaison vers les Amériques. Le diplomate, juste parmi les nations, a donc commencé à délivrer les sauf-conduits au consulat du Portugal à Bordeaux avant de devoir se replier et poursuivre son œuvre à Bayonne, puis sur le chemin vers Andé et la frontière. Les jours précédents, le dictateur Salazar avait pourtant donné instruction à ses consuls et ambassadeurs de restreindre les visas, de les refuser aux apatrides, aux Russes, aux Juifs expulsés de leur pays d'origine ou encore aux opposants politiques de toute nationalité. Mais après plusieurs jours à regarder des familles entières se serrer sous les fenêtres de son consulat, Aristide de Sousa Mendes décide de faire entrer tout le monde. Hommes, femmes et enfants, artistes, intellectuels, religieux se tassent dans les couloirs du bâtiment, dormant sur des chaises ou à même le plancher, et sans manger, et cela par peur de perdre leur place dans la queue. Mais le 24 juin, le nombre de réfugiés franchissant la frontière franco-espagnole en direction du Portugal est si important que le consul est convoqué, démis de ses fonctions, traduit en conseil de discipline pour désobéissance et falsification de passeport, puis carrément mis à pied. Placardisé, Aristide de Sousa Mendes meurt en 1954 à Lisbonne et son histoire tombe dans l'oubli. 12 ans plus tard, en 1966, le mémorial de Yad Vashem l'honore du titre de juste parmi les nations et au Portugal, il a fallu attendre 1986 pour qu'il soit décoré de l'Ordre de la Liberté. Pourquoi tant de temps ? Parce que Salazar a voulu effacer la mémoire de Sousa Mendes et qu'ensuite, après la chute du régime, ce dernier a payé le fait qu'avant 1940, il était de ceux qui avaient soutenu la dictature militaire. C'est là toute la complexité d'une vie. croire au changement, puis déchanter et enfin désobéir. Mardi matin, au Panthéon, c'est donc aussi ce chemin, cette résistance que le Portugal a honorée et devant les descendants des réfugiés sauvés, le président Marcelo Rebelo a déclaré « Le pays s'incline devant la personnalité morale d'Aristides Sousa Mendes, autrement dit devant le choix de la désobéissance ».
Daheim bin ich jung geblieben. Es hat die Neut mich herausgetrieben. Wenn ich hab noch kein 13 Jahre gehabt, in der Fremd weit von Mames Augen, hat in Schmutz mich die Gast der Zeugen geworden ist von mir a Beuleriat. Ich bin a Freimüder, fähigster Marwicher, a größer Künstler, harbet leicht und sicher. Das erste Mal, ich will's gedenken, bisen teut, a rein in die Füße, verlacken in a Bräut. Oi, oi, ich war nicht auf Marken wie jene Prostejatten. Zip nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mechaie, wenn ich tappa sa Magnat. Ich bin na vereimu, gora voileriat. In der Fremd nicht gehabt zum Leben. Gebeten bräut, a normer pflegt noch geben. Nur jene Leid, wo sennen Tomit satt, pflegen oft, treiben mich mit Zorn. Es wächst a Ganef, es ist mir kuhem geworden. A Ganef bin ich nur a Wäuleriat. Ich bin a der fähigster Marwicher, a größer Künstler, harbet leicht und sicher. A jatta kleiner, a rein in Kutschement, a reusa massig, a seltener Talent. Oi, oi, ich war nicht auf Marken wie jene proste Jacken. Ich zipp nur bei karge, schmutzige Magnaten. Hab lieber Menschen am milden Anasprat. Ich bin a Vreimu, gora Wäuleriat. Scheu nicht lang wird das Spiel gedeuern. Krank von Klepp, Gicht von Füße meuern. Nur ein Bakosch, ich wollt, als sei gewollt. Noch mein Teut in a Tog ertrieben. So läuft mein Mazewe stehen geschrieben. Mit Eus, Jes, Größe und von Gold. Da liegt am Reimel der fähigster Marwicher. A Mensch, a größer Gewein wollt von ihm sicher. A Mensch, a feiner, mit Herz, mit a Gefühl. A Mensch, a reiner, wie Gott allein nur will. Oi, oi, wenn i berühm, wollt gewacht am Mammes Augen. Wenn's wollt die finstere Gas ihm nicht erzeugen. Wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt. Da liegt aber heim, jener Wäuleriat. Hey, wenn ich berühm, wollt gewacht am Flammes Augen, wenn's folgte finstere Gas ihm nicht erzeugen, wenn noch als Kind er a Taten wollt gehabt, da liegt aber einmal jener, weil er hat.
Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, a distingué trois nouveaux Français pour avoir sauvé des Juifs pendant la guerre. Un des principaux prélats de la Curie, le recteur de l'église de Saint-Louis des Français et un diplomate, ces trois Français viennent donc d'être reconnus justes parmi les nations, un titre décerné par Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem, aux femmes et aux hommes non-juifs qui, au péril de leur vie, ont durant la Seconde Guerre mondiale sauvé des Juifs. C'est donc du Vatican que le cardinal Eugène Tisserand, Monseigneur André Bouquin et François de Vial ont ensemble pris des risques pour sauver le jeune Miron Lerner, un héroïsme dont on ne saura rien jusqu'en 1998. C'est à ce moment-là que Miron Lerner révèle les circonstances de son sauvetage. Lui qui, né à Paris, s'était retrouvé en 1943 à Rome. D'hôtel en couvent, il rencontre donc le père Marie Benoît, un capucin qui aide les Juifs à survivre. Il sera un des premiers prélats à se voir décerner en 1966 par l'État d'Israël le titre de juste parmi les nations. Entre 1940 et 1944, dans le sud de la France, puis à Rome, il a sauvé tout de même près de 4500 Juifs. Miron Lerner et le père Marie Benoît vont travailler ensemble. Prévenus à temps d'une dénonciation, ils ne seront pas arrêtés, mais Lerner ne peut pas retourner chez lui. Désemparé, il se rend chez un prêtre qui lui donne une lettre de recommandation pour le cardinal Tisserand. Ce dernier le reçoit immédiatement, l'écoute et prend les choses en main. Au nez et à la barbe des Allemands qui gardent la frontière entre le Saint-Siège et la ville de Rome, il le fait entrer au Vatican, couché à ses pieds dans sa voiture. Le jeune Miron est d'abord caché dans un petit couvent à l'intérieur du Vatican, puis la situation devenant de plus en plus dangereuse, il est transféré au couvent de l'église de Saint-Louis des Français, dont le recteur n'est autre qu'un Monseigneur André Bouquin. Le troisième homme impliqué dans l'opération, c'est donc François de Vial. Alors attaché à la représentation française auprès du Saint-Siège, le diplomate va durant une ou deux nuits héberger le jeune Miron chez lui. On le sait aujourd'hui, l'action héroïque de ce trio français ne s'arrête pas à ce seul sauvetage. Personnellement, le cardinal Tisserand prendra de nouveau les mêmes risques afin de sauver un Italien juif qu'il avait connu avant-guerre, César et Verona. Comme pour Lerner, il le fait entrer clandestinement au Vatican, allant jusqu'à le cacher dans ses propres appartements. Une action très courageuse, un geste tout à fait extraordinaire de la part de la plus haute autorité de l'Église catholique après le pape. N'oublions pas que nous sommes sous le règne du très controversé Pie XII, confie une source proche de la Commission des Justes. Dans son témoignage en faveur de son sauveur, Miron Lerner déclare « Ce que je peux vous affirmer, c'est qu'il y avait dans les couvents de Rome pas mal de Juifs cachés par le cardinal Tisserand. Parmi les couvents mentionnés dans le témoignage de Lerner se trouve celui qui jouxte l'église Saint-Louis des Français, dirigée alors par Monseigneur André Bouquin, qui jusqu'à la libération de Rome, y cachera bon nombre de Juifs. Enfin, François de Vial fait partie du mouvement de résistance interalliée. Créé en 1942 et regroupant des Anglais, des Suisses, des Français, des membres du Vatican et des religieux français-italiens, son but est de sauver de la Gestapo et de la police fasciste des prisonniers évadés, ainsi que des pilotes américains et anglais abattus lors des combats au-dessus de l'Italie. Alors, est-ce à dire que la reconnaissance officielle par Israël de l'action du cardinal Tisserand et de Monseigneur Bouquin en faveur des Juifs revient à confirmer la thèse selon laquelle l'Église aurait sauvé des Juifs ? Non, répondent des spécialistes proches de la Commission des Justes qui ajoutent « Il ne faut pas s'y tromper. En ce qui concerne l'Église catholique italienne, le sauvetage de Juifs est toujours le fait d'initiatives individuelles, que ce soit celle d'un prêtre, d'un évêque ou d'un cardinal. Cela ne vient pas d'une directive centrale claire et sans équivoque émise par Pie XII. Ce n'est pas l'Église qui a sauvé les Juifs, mais des gens et des individus très courageux. » Le 17 octobre 1942, Bernard Nathan décède, sans doute le juif le plus haï après Stavisky. Bernard Nathan naît sous le nom de Nathan Tannenzaft le 14 juillet 1886 à Iași, en Roumanie, au sein d'une famille juive. Au début du XXe siècle, il s'installe en France et crée ses studios de cinéma. Durant la Shoah, ce producteur de cinéma est victime d'une campagne de calomnie antisémite avant d'être déporté. Nathan Tannenzaft s'engage dans la Légion étrangère durant la Première Guerre mondiale et en 1921, il est naturalisé français. Il transforme alors son nom en Bernard Nathan. Ce dernier est producteur de cinéma, il crée ses propres studios rue Francoeur. C'est l'un des hommes forts du cinéma français des années 1920 aux années 1940. En 1929, Bernard Nathan sauve de la faillite l'une des deux plus importantes sociétés de cinéma française, Société Pathé, en l'acquérant. Il en assure même le renouveau et le succès. Mais lorsque Pathé Nathan s'effondre en 1935, il est accusé d'escroquerie. Il est calomnié par la presse d'extrême droite qui l'accuse d'enrichissement personnel. Accusé d'escroquerie diverse, il est donc arrêté en 1938 et jeté en prison. On expose également son court passé de producteur de films licencieux pour mieux dresser une image sulfureuse de ce bon père de famille. Il fait ensuite l'objet d'une violente campagne antisémite dirigé par Lucien Rebattet. En but à cette campagne antisémite, il est donc déchu de sa nationalité française par le maréchal Pétain et livré aux Allemands le 23 septembre 1942. Du camp de Drancy, il est déporté à Auschwitz par le convoi numéro 37. Il meurt peu de temps après son arrivée. C'était sans doute le juif le plus haï après Stavisky, témoigne Serge Klarsfeld. Il avait alors le tort d'être juif d'origine étrangère, qui plus est, né à Iași en Roumanie, et d'être devenu en quelques années un homme riche et puissant. Alors pour en savoir plus, vous pouvez découvrir le film documentaire sur Bernard Nathan, réalisé par Francis Gendron, Bernard Nathan, le fantôme de la rue Francoeur. Barbara Streisand avec Avinu Malkenu. En France, les derniers enfants juifs cachés durant la Seconde Guerre mondiale livrent leur destin à la journaliste Sophie Nahum, des récits tout à fait saisissants. C'est un passe-temps d'enfants au camp d'internement de Beaune-la-Rolande. Les gamins jouent à la rafle. « Ah, moi je t'arrête », raconte Arlette Testiller, ancienne enfant cachée. C'est un papier avec la mention « juif utile » qui fait espérer quelques semaines supplémentaires de survie. C'est un attroupement de badauds quand la famille Weizmann est escortée par la police jusqu'à la place des Abbesses à Paris, direction le Vélodrome d'hiver. Pauvres gens croient se souvenir d'avoir entendu Joseph Weizmann. Des petits mots, des petits moments de rien du tout, des scènes fugaces qui racontent l'horreur avec une force tout à fait étourdissante. Dans les derniers enfants cachés qui paraissent le 21 octobre, la documentariste Sophie Nahum recueille la parole des derniers survivants de cette génération d'enfants juifs placés clandestinement durant la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage fait partie d'un projet commencé en 2017 qui comprend les derniers, une série de témoignages sur les survivants des camps de concentration, plus qu'un livre puisque chaque rencontre fait l'objet d'une vidéo diffusée sur le site dédié. On pensait tout savoir sur les enfants cachés, on ignorait le plus important, le récit, non seulement des moments les plus pénibles, mais aussi de ces interactions a priori anodines qui racontent la brutalité d'une époque. Au fil de ces témoignages poignants, on note que si chaque histoire a quelque chose d'unique, des traits communs reviennent sans cesse. En effet, les Allemands n'apparaissent presque pas, les policiers qui viennent rafler, ceux qui donnent les ordres dans les camps sont tous français, de sorte qu'ils paraissent sidérant de prétendre que les dirigeants de l'État ont fait quoi que ce soit pour éviter les déportations. On cherche en vain la haine. Les enfants comme les parents subissent au fond peu d'agressions ouvertement antisémites. Les forces de l'ordre interpellent les familles avec détachement. Ils suivent les consignes, lisent leurs listes. Une passivité générale domine en fait. Ce conformisme complice produira l'effet d'un piège sur de nombreux juifs persuadés qu'il ne s'agit que d'un petit recensement, d'un déplacement provisoire, plusieurs d'entre eux font ce qu'on leur demande en toute confiance. Leur optimisme les mènera jusqu'au train de la mort vers Auschwitz. Les enfants cachés doivent presque toujours leur vie à un mensonge de leurs parents ou alors à un refus d'obéissance. Certains, comme Joseph Weizmann, sont évadés de leur camp d'internement. Il y a quand même chaque fois des personnes qui sauvent l'honneur. Les justes qui ont accepté de recueillir les enfants, bien sûr, encore que tous ne font pas preuve de délicatesse, mais aussi cette infirmière, par exemple, du camp de Drancy, qui donne du pain et du lait à Jean Schwimmer parce que son fiancé porte le même nom de famille que lui, ou encore cet Allemand en zone libre qui regarde la carte d'identité de Léon Pulvermacher sur laquelle est inscrit le mot juif et qui le laisse passer. Tous ont eu beaucoup de chance, 1000 coups de chance, dit Sophie Nahum, pour expliquer leur survie. Et puis il y a l'après. Aller à l'hôtel Lutetia à Paris où sont envoyés les survivants des camps, comme on irait consulter la liste d'admission à un examen en espérant trouver ses parents. Les récupérer, rarement, ne jamais les revoir, souvent. Vivre avec ce fardeau, la plupart des enfants cachés, comme des déportés d'ailleurs, ont attendu d'avoir 50 ans pour parler de ce qu'ils ont vécu. La sortie du film Shoah de Claude Lanzmann en 1985, puis le discours du Vélodrome d'hiver du président Jacques Chirac en 1995, qui reconnaît la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs, ont eu l'effet d'un révélateur, estime Sophie Nahum, qui a parlé à environ 80 rescapés de la Shoah. Parfois, il faut l'insistance d'un petit-fils pour libérer un tabou enfoui depuis si longtemps. Aucun ne se complaît dans un statut de victime, mais tous revendiquent une sensibilité aux discriminations pour que ce qu'ils ont vécu ne se reproduise plus jamais, pour qu'on n'entende plus jamais un pauvre Jean passif sur le chemin d'un raflé.
שוקולד שאני עצובה הוא תמיד כזה נחמד נכון שהוא
Sachez que les entreprises israéliennes s'intéressent de plus en plus au marché russe. En effet, Moscou constate un intérêt croissant des milieux d'affaires israéliens pour le marché russe. C'est ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères, M. Sergueï Lavrov, à l'occasion du 30e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la Russie et Israël. La coopération bilatérale pratique a des potentiels considérables, a déclaré le haut diplomate. Un certain nombre de projets communs sont mis en pratique et cela avec succès. De nombreuses initiatives ont reçu le soutien du président de la Fédération de Russie et du premier ministre de l'État d'Israël, a encore souligné M. Lavrov. L'intérêt des milieux d'affaires israéliens pour l'entrée sur le marché russe ne cesse de croître, a-t-il ajouté. La coopération mutuellement avantageuse des deux pays a résisté à l'épreuve du temps et continue de se développer activement sur toutes les trajectoires. Dans cette optique, M. Lavrov a noté qu'au cours des dernières décennies, Moscou et Tel Aviv ont accumulé une expérience considérable en matière de coopération polyvalente sur des fronts tels que l'économie, la science et les technologies, la santé et l'éducation. Plus de 20 accords intergouvernementaux en vigueur montrent à quel point l'agenda bilatéral est chargé, a-t-il ajouté. Malgré les conséquences de la pandémie de corona, le commerce entre la Russie et Israël a connu une baisse modeste de 3,9% en 2020, alors qu'en janvier à juillet de cette année, il a augmenté de 51,8% en glissement annuel, a souligné le ministre. Il a encore souligné le rôle clé de coordination des efforts conjoints de la commission mixte russo-israélienne sur la coopération commerciale et économique créée en 1994. Nous souhaitons qu'elle reprenne pleinement ses activités dès que possible, a déclaré Sergueï Lavrov. Il a également souligné le rôle particulier des contacts humanitaires pour renforcer les liens entre les pays et assurer leur stabilité et bien sûr leur continuité. Nous apprécions un haut niveau de compréhension mutuelle entre les peuples de Russie et d'Israël, liés par une mémoire historique commune et une interaction interculturelle, a ajouté M. Lavrov. Il est d'ailleurs gratifiant de constater que ce fil qui ne connaît pas de frontières géographiques ne fait que se renforcer au fil du temps. Nous espérons qu'à mesure que la situation sanitaire et épidémiologique s'améliorera, nous serons en mesure de rétablir les flux mutuels de touristes. Fin de citation. De nombreux Juifs quittent l'Europe pour se sentir plus en sécurité. En effet, une nouvelle étude publiée par l'Association juive européenne, l'EJA, une alliance de communautés et d'organisations juives, montre clairement que l'antisémitisme est profondément enraciné et même croissant dans l'Union européenne, et cela 80 ans après la Shoah. L'information est basée sur une enquête menée auprès de 16 000 personnes dans 16 États membres de l'Union européenne, et cela a été rapporté sur une chaîne allemande, la Deutsche Welle. Le rabbin Shlomo Kops de Hongrie a déclaré aux médias allemands qu'il constatait un déclin progressif de l'antisémitisme en Hongrie au fil des ans, mais il rencontre toujours des étudiants qui demandent désespérément s'ils doivent rester juifs, simplement parce que leurs parents sont juifs. « Mon rêve, dit le rabbin Kops, est que nous n'aurons pas d'enfants européens qui se sentiront menacés d'être juifs. Aucun enfant juif ne devrait avoir peur de vivre selon son identité juive, et je rêve qu'aucun garçon en Europe ne pense que le mot juif ne soit un gros mot. » Selon la nouvelle étude, il existe encore de nombreux préjugés antisémites en Europe. Ils comprennent des théories du complot mondial, accusant les Juifs d'avoir crucifié le même homme, et des allégations de pratiques commerciales douteuses. Des chercheurs de l'Université de Budapest ont mené une enquête composée de 70 questions pour révéler les attitudes dominantes des non-Juifs envers les Juifs dans les pays européens. Les positions antisémites étaient les plus fortes. Où ? Eh bien en Grèce, en Pologne, en Slovaquie et en Roumanie. La Suède, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, en revanche, ont montré des signes encourageants. L'Allemagne était classée au milieu. Cependant, c'était le pays avec le nombre d'attaques antisémites les plus violentes dans l'Union européenne en 2020, avec au moins 59 cas signalés. Les auteurs de la nouvelle étude disent que la plupart des gens en Grèce, en Pologne et en Autriche ont des positions antisémites fortes. Le chiffre s'élève à 28% en Allemagne, tandis qu'en Suède et aux Pays-Bas, il n'y en a que 10% et 8% respectivement. En tout cas, la semaine dernière, la Commission européenne a dévoilé son premier plan politico-stratégique de lutte contre l'antisémitisme. Elle prévoit d'interdire le commerce de souvenirs nazis et d'intensifier la lutte contre les discours de haine antisémite sur Internet. 9 juifs sur 10 en Europe considèrent l'antisémitisme comme un problème grave selon la Commission européenne. La France est le pays qui compte le plus de citoyens juifs après Israël et les États-Unis. Monsieur Joël Mergui, le chef de l'Association des centres juifs de France et représentant toutes les communautés juives de pays, a déclaré aux journalistes à Bruxelles, les Juifs quittent l'Europe. Selon lui, les jeunes notamment ont immigré en Israël ou aux États-Unis parce qu'ils ne se sentaient plus en sécurité en Europe. Monsieur Mergui a encore déclaré que les Juifs devraient pouvoir vivre leur vie sans avoir besoin d'une protection policière continue, et cela dans les synagogues, les écoles ou encore les jardins d'enfants. Malheureusement, nous y sommes habitués, mais ce n'est pas normal. Fin de citation.
11 novembre 1975. Hier, j'étais dans le métro et j'entends deux dames dire « T'as vu encore ces juifs avec leurs histoires à l'ONU ?» Quels emmerdeurs. C'est vrai, nous sommes des emmerdeurs. Ça fait des siècles qu'on emmerde le monde. C'est dans notre nature, que voulez-vous ? Abraham, avec son Dieu unique, Moïse avec ses tables de la loi, Jésus avec son autre joue toujours prête à la deuxième baffe, puis Freud, Marx, Einstein, tous ont été des gêneurs, des révolutionnaires, des ennemis de l'ordre. Pourquoi ? Parce qu'aucun ordre, quel que fût le siècle, ne pouvait les satisfaire, puisqu'ils en étaient toujours exclus. Remettre en question, voir plus loin, changer le monde pour changer de destin, tel fut le destin de mes ancêtres. C'est pourquoi ils sont haïs par les défenseurs de tous les ordres établis. L'antisémite de droite reproche aux Juifs d'avoir fait la révolution bolchévique. C'est vrai, il y en avait beaucoup. En 1917. L'antisémite de gauche reproche aux juifs d'être les propriétaires de Manhattan. C'est vrai, il y a beaucoup de capitalistes juifs. La raison est simple. La religion, la culture, l'idéal révolutionnaire d'un côté, les portefeuilles et les banques de l'autre sont les seules valeurs transportables, les seules patries possibles pour ceux qui n'ont pas de patrie. Et maintenant qu'il en existe une, l'antisémitisme renaît de ses cendres. Pardon, de nos cendres. Et s'appelle antisionisme. Il s'appliquait aux individus, il s'applique à une nation. Israël est un ghetto. Jérusalem, c'est Varsovie. Les nazis qui nous assiègent parlent arabe. Et si leur croissant se déguise parfois en faucille, c'est pour mieux piéger les gauches du monde entier. Moi qui suis un juif de gauche, je n'en ai rien à faire d'une certaine gauche qui veut libérer tous les hommes du monde aux dépens de certains d'entre eux. Car je suis précisément de ceux-là. D'accord pour la lutte des classes, mais aussi pour le droit à la différence. Si la gauche veut me compter parmi les siens, elle ne peut pas faire l'économie de mon problème. Et mon problème est que depuis les déportations romaines du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons été partout honnis, bannis, traqués, dénoncés, écrasés, spoliés, brûlés et convertis de force. Pourquoi ? Parce que notre religion, c'est-à-dire notre culture, était dangereuse. Eh oui. Quelques exemples ? Le judaïsme a été le premier à créer le Shabbat, jour du Seigneur, c'est-à-dire le jour de repos hebdomadaire obligatoire. Vous imaginez la joie des pharaons toujours en retard d'une pyramide. Le judaïsme interdit l'esclavage. Vous imaginez la sympathie des Romains, les plus importants grossistes de main-d'œuvre gratuite de l'Antiquité. Il est dit dans la Bible, « La terre n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. » De cette phrase découle une loi, celle de la remise en question automatique de la propriété foncière tous les 49 ans. Vous voyez l'effet d'une loi pareille sur les papes du Moyen-Âge et les bâtisseurs d'empire de la Renaissance. Il ne fallait pas que les peuples sachent. On commença par interdire la Bible. Puis ce furent les médisances. Des murs de calomnie qui devinrent murs de pierre et qu'on appela ghetto. Ensuite ce fut l'Inquisition, les bûchers et plus tard les étoiles jaunes. Auschwitz n'est qu'un exemple industriel de génocide, mais il y a eu des génocides artisanaux par milliers. J'en aurais pour 3 jours, rien qu'à nommer tous les pogroms d'Espagne, de Russie, de Pologne et d'Afrique du Nord. À force de fuir, de bouger, le juif est allé partout. On extrapole et voilà, il n'est de nulle part. Nous sommes parmi les peuples comme l'enfant à l'assistance publique. Je ne veux plus être adopté. Je ne veux plus que ma vie dépende de l'humeur de mes propriétaires. Je ne veux plus être un citoyen locataire. J'en ai assez de frapper aux portes de l'histoire et d'attendre qu'on me dise « entrez ». Je rentre et je gueule. Je suis chez moi sur terre. Et sur terre, j'ai ma terre. Elle m'a été promise, elle sera maintenue. Qu'est-ce que le sionisme ? Ça se réduit à une simple phrase. l'an prochain à Jérusalem. Non, ça n'est pas un slogan du club Méditerranée. C'est écrit dans la Bible, le livre le plus vendu et le plus mal lu du monde. Et cette prière est devenue un cri qui a plus de 2000 ans. Et le père de Christophe Colomb, de Kafka, de Proust, de Chagall, de Marx, d'Einstein et même de Monsieur Kissinger l'ont répété, cette phrase, ce cri, au moins une fois par an, le jour de Pâques. Alors, le sionisme c'est du racisme? Faites-moi rire. Est-ce que douce France, cher pays de mon enfance, est un hymne raciste? Le sionisme, c'est le nom d'un combat de libération. Dans le monde, chacun a ses juifs. Les Français ont les leurs. Ce sont les Bretons, les Occitans, les Corses, les travailleurs immigrés. Les Italiens ont les Siciliens, les Yankees ont leurs Noirs, les Espagnols leurs Basques. Nous, nous sommes les Juifs de tous. À ceux qui me disent, et les Palestiniens? Je réponds, je suis un Palestinien d'il y a 2000 ans. Je suis l'opprimé le plus vieux du monde. Je discuterai avec eux, mais je ne leur céderai pas ma place. Il y a là-bas de la place pour deux peuples et deux nations. Les frontières sont à déterminer ensemble. Mais l'existence d'un pays ne peut en aucun cas exclure l'existence de l'autre. Et les options politiques d'un gouvernement n'ont jamais remis en cause l'existence d'une nation, quelle qu'elle soit. Alors pourquoi Israël ? Quand Israël sera hors de danger, je choisirai parmi les Juifs et mes voisins arabes ceux qui me sont frères par les idées. Aujourd'hui, je me dois d'être solidaire avec tous les miens, même ceux que je déteste, au nom de cet ennemi insurmontable, le racisme. Descartes avait tort. Je pense donc je suis, ça ne veut rien dire. Nous, ça fait 5000 ans qu'on pense, et nous n'existons toujours pas. Je me défends, donc je suis.
Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. rage. Demain le sang sera lavé. La route est faite de courage. Une femme pour un pavé. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui malgré le sable infâme ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah.
Et voilà, c'est avec Inch'Allah de Salvatore et Adamo que se termine cette émission Découverte. Avant cela, nous avons écouté Herbert Pagani avec Plaidoyer pour ma terre. J'espère que cette émission vous aura intéressé. Je vous retrouverai, si vous le voulez bien, vendredi prochain, même heure, même chaîne. Je vous rappelle au passage que cette émission est rediffusée le dimanche de 18h à 19h. Il ne me reste plus le temps que de vous